Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine, Escale s'intéresse aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Jadis connue comme la capitale du viol, la RDC a vu des progrès importants au cours des deux dernières années, depuis qu'elle a retrouvé une paix stable et qu'elle s'est dotée d'une représentante personnelle du président sur la violence sexuelle et le recrutement d'enfants, en la personne de Jeanine Mabunda, que nous avons reçue dans nos studios lors de son récent passage à l'ONU. Elle nous raconte les réussites de sa nation et le travail qu'il reste à faire.
On vient de cette histoire un petit peu malheureuse où la RDC était présentée comme la capitale du viol. Et franchement, c'est pas une image qui est à l'honneur de la RDC et qui rend compte finalement des initiatives nombreuses qui se passent au niveau social et particulièrement dans ce domaine-là. Donc, effectivement, la RDC connaît depuis le retour à la paix, vers fin 2013, une paix stable parce qu'on a quand même connu 10 années de turbulences sécuritaires à l'est de la RDC. La RDC donc profite de la paix pour remettre de l'ordre au niveau de ces questions sociétales, dont les violences sexuelles adressées aux femmes. Et des progrès sont là, puisque le rapport des Nations Unies indique qu'en 2013, nous étions à 15 000 cas recensés de violences liées au conflit. En 2014, un an après, nous sommes à 10 812 cas, soit 33% de baisse. Et ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas un fait isolé, c'est une question de leadership et de volontarisme collectif de la nation congolaise.
Vous pensez donc réellement qu'il y a eu un impact à travers un message qui a été émis et qui a mené à cette réduction ?
Oui, il y a plus qu'un message, parce que pour arriver à ces résultats-là, on a dû s'y mettre là où vraiment ça faisait mal. Et là où ça faisait mal, c'était le rôle des forces de sécurité qui étaient stigmatisées en matière de violence. C'était l'accès à la justice et l'impunité des auteurs de viol. C'était probablement la question de sensibilisation par l'éducation et la communication. Et sur ces différents volets-là, nous sommes intervenus. Par exemple, je donnerai pour l'armée un détail très clair. En 2013, lorsque les rapports étaient publiés en matière de violence sexuelle sur la RDC, l'armée comptait pour 72% des cas commis en matière de violences sexuelles. Un an après, l'armée compte pour 42% de cas commis, soit une baisse de presque 50%. Et ce n'est pas le fait du hasard, parce qu'en fait, l'armée s'est mobilisée aux côtés de la population, profitant de la paix. Et la bataille de la paix aujourd'hui, c'est la bataille de la normalisation sur ces questions de violences sexuelles. Donc l'armée a émis un plan d'action de lutte contre les violences sexuelles, revu et validé par les Nations Unies. L'armée a créé une commission interministérielle qui a pour but de suivre comme task force ces questions-là. Et l'armée, récemment, à l'occasion du dernier passage de la secrétaire générale adjointe Madame Bangoua en RDC, vous avez assisté à une cérémonie où des commandants de brigade qui gèrent en général 3 000 à 3 500 hommes, c'est ça les troupes d'un commandant de brigade, ont fait chacun une déclaration sur l'honneur, plus d'une vingtaine, qu'ils allaient être particulièrement réactifs et sensibles sur les questions de violence. Voilà.
Alors, quelles sont les répercussions pour les membres du personnel de l'armée nationale aujourd'hui, depuis que vous avez pris vos fonctions et qui, à travers ce plan d'action, mène justement à cette baisse ?
Eh bien, la baisse n'est pas que juste le volontarisme et la mobilisation et la sensibilisation de l'armée, elle vient aussi par l'exemple. L'exemple vient par la sanction. On a beaucoup parlé d'impunité sur les questions de violence sexuelle. On a peut-être à un moment mal compris aussi la RDC sur ces questions-là, mais on a pris le taureau par les cornes et la justice civile comme militaire sont devenues très intolérantes sur les questions de violence sexuelle. La justice militaire, l'année passée, a prononcé 135 cas de sanctions, de viol, pour donc des membres de forces de sécurité, y compris des hauts gradés militaires. Nous avons sanctionné l'année passée le général Kiakwavu, qui est ce général qui avait commis des viols répétés sur des filles mineures. Et il a été sanctionné à 10 ans de prison, 100 000 dollars de dommages et intérêts, après une procédure qui a duré 7 ans. Et donc ça montre bien tout le sérieux que nous on attache à ces questions-là, parce qu'effectivement on ne veut plus être tolérant sur ces problèmes de violence.
100 000 dollars de réparation. Justement, quelles sont les actions qui sont menées pour appuyer les victimes ?
Mais je crois que c'est là que se situe aussi le chemin de progression, parce que lorsque quelqu'un est victime d'un viol, il y a la réponse médicale, la réponse judiciaire qui est en train de s'améliorer, même si ça reste encore un challenge, mais la volonté et l'exemple montrent que c'est possible d'y arriver. Et puis se pose le problème de la réinsertion, la non-exclusion de la victime. Et donc là, il y a eu des réflexions qui sont menées, tant au niveau de l'inclusion économique, donc la réparation économique par peut-être l'accès à un emploi. L'accès à un emploi suppose peut-être des formations auto-employantes, et ça, nous sommes en train d'y travailler. Et à côté de ça, c'est la réparation des victimes au sens légal du terme, puisque l'État est responsable des préposés étatiques qui se comportent mal dans ce domaine. Et donc, nous sommes en train de proposer, avec l'aide de la commission du Sénat en charge des violences sexuelles, parce que même le Sénat a désormais une commission en charge des violences sexuelles, nous sommes en train de proposer conjointement avec eux un texte qui définirait les mécanismes d'une réparation un peu plus structurée et automatique pour les personnes qui ont été victimes de violences du fait de l'intervention de préposés étatiques.
Est-ce qu'il y a une différence pour les victimes qui sont victimes de violences commises par les FRDC ou par d'autres groupes armés ou d'autres viols ?
Je pense que le texte est encore en construction, mais l'idée c'est de dire que le crime ne peut pas s'arrêter juste à une décision judiciaire sèche qui condamne et qui réprime, mais qu'elle doit aussi tenir compte de la douleur de la victime qui a besoin en tout cas de rebondir et de repartir sur un bon pied. Et donc nous sommes en train de définir les critères sur ces questions-là, mais au moins le débat a lieu aujourd'hui sur la reconnaissance d'une réparation aux victimes suivant certaines conditions.
Est-ce que l'on voit un changement de perception par rapport au viol dans le pays ?
Si on est capable aujourd'hui de condamner un général d'armée au plus haut niveau, et dans tous les pays du monde, c'est pas facile de condamner un général, quel que soit le crime qu'il a commis, viol ou autre, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité. Si le numéro 2 de la police d'une province, pour avoir séduit abusivement une fille mineure de 15 ans, est poursuivi en déant les 3 mois, qu'il est mis en prison pour 14 ans et qu'il est révoqué de la police, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité. Et nous voulons installer ce changement de mentalité. C'est comme ça que nous avons lancé une campagne qui s'appelle Briser le silence, Break the Silence. Et en fait, cette campagne dit aux jeunes Congolaises qu'elles ont le droit d'être épanouies dans leur pays, elles ont le droit de bénéficier des dividendes de la paix. Et les dividendes de la paix, c'est la sécurité à leur porte et dans leur vie de tous les jours sur le chemin de l'école. Et pour ce faire, nous avons mis sur pied une ligne de secours qui s'appelle un call center. Et toute personne, n'importe où dans le Congo, dans l'anonymat du téléphone, peut appeler cette ligne en disant « j'ai connu ou j'ai subi des sévices de violence, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc c'est une ligne verte, une ligne de secours. Et comme au Congo, il y a quand même 21 millions de personnes qui utilisent le téléphone, je pense que c'est un outil très percutant.
Que proposez-vous pour ces femmes quand elles commencent leur démarche ? Parce que c'est quand même une démarche qui fait peur.
C'est vrai, on doit bien admettre que c'est pas facile déjà d'exprimer publiquement cette douleur de viol qu'on a subie. Et donc c'est pour ça qu'il faut améliorer encore plus la prise de conscience, l'alerte, la communication sur ces questions-là. C'est ce que nous essayons de faire. Il faut savoir aussi que cette prise de conscience et cette campagne de sensibilisation, c'est à la hauteur de la dimension du Congo, donc c'est un grand défi. Quand vous êtes à Kinshasa et que vous devez intervenir pour aider quelqu'un qui est victime au Nord Kivu, c'est comme si vous êtes à Londres et que vous devez intervenir à Moscou. C'est ça vraiment l'ampleur et les défis que nous avons, des défis d'infrastructure, des défis aussi de ressources humaines et financières. Mais je pense qu'il ne faut jamais mettre les questions matérielles et logistiques avant, parce que depuis que nous avons rejoint cette mission ou ce mandat de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats, nous constatons quand même que la dynamique se crée d'abord plus par l'exemplarité, par la volonté au sommet de l'État, par une appropriation nationale et par une focalisation sur des points d'action qui sont concrets et qui répondent vraiment aux besoins de la population. Quand des personnes sont violées à Rutshuru, à Nirangongo, à Uvira, à Kale ou à Beni, elles ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une justice théorique, ils s'attendent à ce que la justice soit rendue dans des délais raisonnables à leur porte. Et c'est ainsi que nous avons pensé et que nous continuons à privilégier et promouvoir les tribunaux forains, les tribunaux mobiles, parce que ça permet de déplacer en fait le ressort du tribunal sur les lieux du crime et de sanctionner le criminel dans l'environnement où il avait créé l'insécurité. Et donc nous pensons que ces réponses-là sont des réponses qui petit à petit permettent aux gens de se sentir en sécurité. Quand les gens voient que leurs bourreaux ont été sanctionnés dans la communauté où il a commis le crime, ça remet comme la communauté un point de départ, un point de rebond qu'il avait perdu avec l'irruption donc de cette violence et de cette insécurité.
Aucune circonstance ne peut justifier des cas de viol et sont punissables jusqu'à 20 ans de prison. Signalez tous les cas de viol en appelant au 089 70 00 222.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour cette cause ?
Bon, d'abord, je pense qu'au Congo, il y a quand même 52% de la population qui sont des femmes, et j'en suis une, et donc c'est la majorité. Même si c'est la majorité silencieuse, c'est la majorité. Deuxièmement, je pense que, moi je dis toujours, ma grand-mère était quelqu'un d'un milieu très modeste, de l'autre côté du pays. C'était une femme pêcheur qui n'avait pas du tout étudié, mais elle avait fait l'effort en fait d'envoyer sa fille, qui est ma mère, à l'école. Et donc, j'ai toujours pensé que l'éducation, l'accès à l'école, l'accès à des outils de compréhension du monde pour quelques petites filles que ce soit, c'est une chance incroyable. Moi, je l'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance et j'aurais pu être cette petite fille à l'est du Congo qui s'est fait violer une fois, deux fois, dix fois. Et quand je pense à ça, je me dis, mon Dieu, j'ai quelque chose à faire. J'ai beaucoup eu peut-être par le fait de ma vie et de ma carrière personnelle et professionnelle, et donc il faut rendre aussi à cette population.
Vous avez dû être amenée à rencontrer des victimes. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui vous a le plus frappée?
Oui, je pense toujours à cette fille enfant soldat que j'avais rencontrée au mois d'août à Goma. Et donc, ces deux petites filles qui avaient été libérées des groupes armés par le phénomène de pacification et les opérations donc, de normalisation en matière de sécurité par notre armée congolaise. Et donc, on avait réussi à libérer ces deux petites filles, les réunir avec leur famille. Elles étaient toutes sorties de ces groupes armés avec l'une un bébé de 2 mois, l'autre un bébé de 4 mois. Donc, des enfants avaient mis au monde d'autres enfants. C'était déjà assez dramatique. Et je disais à l'une, celle qui avait 14 ans, je dis, c'est très bien maintenant, tu vas pouvoir retourner à l'école. Elle m'a regardée d'un air vraiment goguenard, presque cynique, et elle m'a dit, mais maman, tu n'y penses pas, à 14 ans, je suis trop âgée pour aller à l'école, j'ai pas de temps à perdre, on va se moquer de moi. Je dis, mais non, à 14 ans, tu as toute la vie devant toi. Et donc voilà, c'est frappant cet échange que j'ai eu avec cette personne, parce que voilà comment on brise le droit à l'enfance de quelqu'un. Parce que cette personne-là ne verra plus la vie comme une petite fille de 14 ans, elle sera une adulte précoce. Et donc nous espérons que le Congo de demain ne sera plus celui-là, celui qui porte les stigmates d'une guerre de 10 ans qu'on n'a pas souhaité, mais pour lequel on a dû se défendre. Dieu soit loué, on a trouvé une solution. Et maintenant qu'on a trouvé cette solution par la pacification, on peut adresser les problèmes de société qui sont les problèmes de violence sexuelle. Donc oui, cette rencontre-là m'a troublée, comme beaucoup d'autres, mais ça ne doit pas nous écraser. Ça doit au contraire nous encourager à dire que quand il y a une forte volonté au plus haut sommet de l'État, et je pense que le chef de l'État, Joseph Kabila, l'a démontré, je pense que le Premier ministre aussi, par sa politique, l'a démontré, parce que moi, j'interviens au niveau de l'urgence. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, en RDC, à cause justement de ces phénomènes qui ont frappé particulièrement les petites filles à l'est de la RDC, on a voté depuis 4 ans une politique très agressive en matière d'éducation pour permettre un accès plus large à l'école aux petites filles. On a fait une campagne avec l'UNICEF qui s'appelle « Envoyer les petites filles à l'école ». On a augmenté le budget de l'éducation de 6% du budget par an en 2010 à 16% du budget. La norme en général dans les pays en voie de développement est de 20%, donc on n'est pas loin. On met 100 millions de dollars chaque année pour construire 1000 écoles en RDC. On a 149 territoires, donc quand on construit 1000 écoles, ça veut dire que virtuellement, un territoire peut voir 6 nouvelles écoles et ça change la vie du quotidien des petites filles et des petits garçons, parce qu'ils ne doivent plus faire des kilomètres pour aller dans une école qui est faite de toits de palmiers, qui n'est pas protégée des pluies et du soleil. Et c'est sur cette route un peu hasardeuse que souvent les petites filles rencontraient les violeurs. Et donc construire 1000 écoles, mettre 100 millions de dollars, augmenter le budget, ben ça s'est traduit en des résultats concrets pour les petites filles, puisqu'il y avait 7 millions d'enfants qui allaient à l'école il y a une dizaine d'années en RDC. Aujourd'hui, avec cette politique, il y a 17 millions d'enfants qui ont droit à l'école gratuite en première primaire. Et ça va faire la différence pour les petites filles de demain. Et donc je pense que ce leadership-là, il faut le reconnaître, par les faits, et je pense que je n'aurais pas pu obtenir tous ces résultats, ni avec les militaires, ni avec la justice civile, ni avec le parquet, les ONG, les avocats, les auxiliaires de justice, si finalement nous n'étions pas tous ensemble comme nation, en train de se dire que vraiment on n'accepte plus d'être présenté comme la capitale du viol, mais plutôt que de se plaindre, on transforme cette frustration en une action qui porte des résultats, et les résultats, ils sont là, 15 000 cas en 2013, 10 812 en 2014, et j'espère qu'on va continuer pour mettre ce sujet-là au passé.
Prochaine étape?
La prochaine étape, certainement, c'est probablement de consolider, mais en mettant plus d'accent cette fois-ci, non pas juste sur la justice, mais sur l'inclusion économique des personnes vulnérables et sur des textes de loi qui les protègent, notamment au niveau de la réparation.
Et c'est avec Jeannine Mabunda que se referme cette édition d'Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.